Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, tout pile, excellent réveil. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les intempéries ont encore fait des dégâts, cette fois dans le sud-est, la vallée de la Vésubie, celle qui avait été durement touchée par la tempête Alex il y a 4 ans. Cette fois, l'eau a arraché des ponts. Une cinquantaine de personnes ont été évacuées. Un risque de guerre civile en France avec les extrêmes. C'est Emmanuel Macron qui s'en alarme, le président, à 5 jours du premier tour des législatives. Et puis l'Euro de foot, les Bleus qualifiés avant même de jouer pour la première place de leur groupe ce soir contre la Pologne.
Et puis, y a-t-il un vaste système de corruption à la mairie de Saint-Tropez? Nos révélations RMC à 7h20, dans 20 minutes maintenant. Le sort s'acharne dans le sud-est.
Oui, après la vallée de l'Oisans en Isère ce week-end, c'est la vallée de la Vésubie dans les Alpes-Maritimes qui a été touchée hier soir par d'importantes pluies. Elles ont provoqué des crues et encore une fois, eh bien, il y a des dégâts, Romain Houck, dans cette vallée.
Oui, plusieurs routes submergées et des ponts emportés, coupant du monde une partie du village sur les hauteurs dans le secteur du Haut-Boréon. Plusieurs habitants se sont ainsi retrouvés isolés. 52 personnes ont dû être évacuées par les pompiers, mais pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer.
Ouais, il y a du ras-le-bol ce matin dans ce village de Saint-Martin-Vésubie, village de montagne, avec ces images qui rappellent la tempête Alex il y a 4 ans.
Oui, c'était à l'automne 2020. La vallée de la Vésubie avait alors été ravagée par la montée des eaux. Un bilan humain très lourd, au moins 10 morts dans les Alpes-Maritimes et des dégâts considérables. Depuis, la reconstruction avance difficilement. Des ponts provisoires sont en place, mais hier, plusieurs ont été détruits, comme à chaque épisode de pluie, selon Thierry Ingigliardi, adjoint à la mairie chargé des travaux.
Avec des pluies normales, on va dire, un atout qui saute parce que les ouvrages définitifs ne sont pas faits, on n'est que sur de l'ouvrage provisoire. Maintenant, ça commence à suffire. Ça fait 4 ans qu'on est en galère. Les ouvrages ne sont pas terminés. On attend toujours quelqu'un. Et les gens, franchement, ça devient très compliqué.
De nouvelles pluies sont attendues aujourd'hui dans la vallée. 9 engins et 15 pompiers sont déployés sur place pour sécuriser les routes.
Il y a un risque de guerre civile en France. On est à 5 jours du premier tour des élections législatives. Et c'est donc Emmanuel Macron qui s'en alarme dans un podcast et qui affirme que les programmes des extrêmes, disent-ils, mènent à la guerre civile. Cyprien Pézeril, en direct ce matin du service politique et RMC, ça mérite une explication de texte. Qu'est-ce qui lui fait parler de guerre civile?
Eh bien, Emmanuel Macron se projette en cas de victoire des camps opposés. Il voit un risque de conflit armé entre deux parties du même peuple. D'abord, avec l'extrême droite en matière d'insécurité, je le cite, elle divise et pousse à la guerre civile parce qu'elle renvoie les gens à une religion ou à une origine. Et le chef de l'État poursuit. La France insoumise qui propose une forme de communautarisme, ça aussi, c'est la guerre civile derrière, accuse-t-il encore.
Alors, commentaire des oppositions, il est toujours là pour mettre le feu, ça c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Un président ne devrait pas dire ça, commente Jordan Bardella. Et alors, Cyprien, vous nous dites que même dans son propre camp, Emmanuel Macron suscite des réactions.
Oui, c'est insupportable, lance un ancien ministre en campagne. Il faut aussi imaginer ce cadre Renaissance qui lève les yeux au ciel quand on lui rapporte les propos du président. Je ne le comprends plus. Quand un député sortant déplore, il est dans la surenchère, on perd notre boussole politique. Le même qui croit déceler une tentative d'inquiéter les électeurs âgés pour les faire revenir dans le camp macroniste. Manière aussi de se faire entendre face aux deux autres blocs. Enfin, même Gabriel Attal, longuement interrogé hier soir sur les mots du président, a refusé de les reprendre.
Alors, avant le premier des 3 débats entre les 3 favoris des sondages ce soir, Jordan Bardella a dévoilé hier le programme du RN en cas de victoire aux législatives, avec la promesse, selon ses mots, de rétablir l'ordre, sans être précis sur son chiffrage économique. Et avec cette mesure qui retient l'attention, interdire aux binationaux d'occuper les postes stratégiques de l'État. Ce qui semble difficile à mettre en place, hein, Marion Gauthier.
Inconstitutionnelle, la distinction entre deux types de Français. C'est une rupture du principe d'égalité, répète Anne Levade, professeure de droit public à la Sorbonne.
Les binationaux sont d'abord et avant tout des nationaux français.
Quant au risque soulevé par le RN de conflit d'intérêts.
Quand on est sur un emploi stratégique, fait toujours l'évaluation du profil individuel. Mais c'est du cas par cas. Le caractère général de la mesure ne me semble pas faisable sur le plan juridique.
Mais l'idée est instillée que les binationaux sont potentiellement des traîtres, enrage Mélanie. Elle se dit binationale africaine, haut fonctionnaire depuis près de 5 ans.
Il suffit d'une directive, d'une réunion. On ne veut pas la promotion de Français binationaux. L'oral. Ça fonctionne bien dans la haute fonction publique.
Et les consignes orales pourraient bloquer des carrières.
Mais si demain je veux changer de poste, eh ben je sais que ce ne sera pas possible. Donc, je suis très bien à servir l'État. J'adore aller dans des réunions, rencontrer d'autres pays, de voir mon nom qui ne sonne pas français avec le drapeau français. Et il y a des gens qui vont décider que non, en fait. Parce qu'en fait, j'ai pas le bon nom de famille, j'ai pas le bon sang qui coule dans mes veines.
Jordan Bardella peut faire fuir des Français méritants, ajoute Mélanie, sans avoir eu besoin de poser un texte sur la table.
La campagne des législatives qui est marquée par l'agression à Bordeaux d'un militant écologiste qui avait des tracts dans les mains. C'était vendredi dernier, le soir de la fête de la musique. Une plainte a été déposée. La gauche accuse l'extrême droite. Et dans le Calvados, des symboles nazis ont été tagués sur des affiches de campagne du nouveau Front Populaire. À 7h05 sur RMC, il y a cette affaire qui ressemble à un règlement de compte, mais sans aucun coup de feu. Ça se passe dans l'Ain, où une grand-mère, une septuagénaire, a été enlevée vendredi dernier par 4 individus encagoulés. Lucille Pascanet du service police-justice à RMC, qu'est-ce qui s'est passé ?
Il est 6h du matin, vendredi, lorsque 4 hommes font irruption dans une maison de Trévoux, une petite ville de 7000 habitants au nord de Lyon. Cette maison, c'est celle d'une famille connue de la gendarmerie, pour des affaires de stupéfiants notamment. À l'intérieur se trouve une femme de 77 ans que les 4 malfaiteurs, armés et encagoulés, contraignent à sortir avant de la jeter dans le coffre de leur voiture et de prendre la fuite. 4 jours plus tard, la septuagénaire est toujours introuvable. Elle n'est pas connue de la justice et selon nos confrères du Progrès, elle aurait des problèmes de santé. Les enquêteurs suspectent que son enlèvement soit un moyen de faire pression sur un ou des membres de sa famille. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête. Les gendarmes travaillent aujourd'hui à identifier et retrouver les 4 suspects. Ils étaient toujours en fuite hier soir.
Le calvaire de Julian Assange est terminé. Voilà ce que dit cette nuit la mère du lanceur d'alerte australien fondateur de Wikileaks, incarcéré depuis 5 ans au Royaume-Uni pour avoir révélé des centaines de milliers de documents confidentiels. Il est donc sorti de prison. Un accord a été trouvé avec la justice américaine pour qu'il retrouve la liberté. À l'Euro de foot, il a encore fallu se coucher tard hier soir pour le match de l'Italie qui a arraché le match nul un partout à la 98e minute contre la Croatie pour se qualifier en 8e de finale. Ce sera contre la Suisse. Comme l'Espagne qualifiée d'ores et déjà dans le même groupe pour les 8e, l'Espagne qui a fait tourner avec son équipe B 1-0 victoire contre l'Albanie. Par effet ricochet, la France est d'ores et déjà qualifiée pour les 8e de finale avant même de jouer son 3e et dernier match de poule, 18h en fin de journée contre la Pologne. Alors l'enjeu, ce sera la première place du groupe, Loïc Braille.
Et pour finir en tête de ce groupe, il faut battre la Pologne. Et pour battre la Pologne, il faut marquer au moins un but, voire en marquer plusieurs. Les Bleus doivent surtout reprendre confiance. N'Golo Kanté.
De se rassurer déjà en gagnant, en marquant, que c'est des matchs qui comptent, parce que la phase d'après, c'est des matchs, si on perd, c'est terminé. Donc se rassurer et prendre des automatismes ensemble, s'habituer à gagner, à marquer, ça peut que être utile pour la suite de la compétition.
Et la suite en terminant premier semble plus abordable qu'en finissant deuxième. Cela permettrait d'éviter la partie de tableau de l'Espagne, l'Allemagne et le Portugal, potentiel adversaire des Bleus en quart de finale. Mais ne parlez surtout pas de ça à Didier Deschamps.
J'ai jamais voulu faire de calcul en disant un tableau du bas, tableau du haut, j'aime pas ça.
Oubliez les autres équipes, ne pensez qu'à soi-même et mettre fin à cette statistique. Jamais depuis que Deschamps est sélectionneur, les Bleus n'ont gagné leur 3e match de poule dans un grand tournoi.
Pour l'instant, ce sont les Pays-Bas qui sont en tête du groupe. Ils joueront à la même heure, 18h, contre l'Autriche. Ce sera évidemment sur RMC, qui se délocalise chez un joueur de l'équipe de France à chaque match des Bleus, vous le savez. Aujourd'hui, Fougères en Bretagne, chez Eduardo Camavinga, milieu de terrain, Rotten sans flamme et l'after, donc en direct de Fougères ce soir. Je vous signale aussi que l'OM va se mettre à l'italien, puisque ça y est, c'est confirmé, accord de principe trouvé avec le technicien Roberto De Zerbi, qui sera le nouvel entraîneur marseillais la saison prochaine.
Et c'était le journal donc de Quentin Vinet. Il est 7h08 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Restez bien avec nous. Jean-Louis Tour d'RMC Sport nous rejoint à quelques heures donc du 3e match des Bleus à l'Euro. L'équipe de France est déjà qualifiée, mais il faut marquer des buts tout à l'heure face à la Pologne. Et ça, pour l'instant, les Bleus n'y arrivent pas. Mbappé va-t-il jouer ? On en parle tout de suite sur RMC Radio officielle de l'Euro de foot. À tout de suite.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h10 et on va parler des Bleus.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
Avec Jean-Louis Tour, le rédacteur en chef football à RMC Sport. Salut Jean-Louis.
Bonjour.
L'info qui date d'hier soir, c'est que ça y est, c'est bon. En fait, on est tranquille, oui. On y va tout serein, puisque les Bleus sont déjà qualifiés.
Oui, alors c'est vrai, on est déjà qualifiés mathématiquement, mais Bon, Didier Deschamps, hier, a bien insisté en conférence de presse en disant que l'important, c'était quand même la première place dans ce groupe, donc fallait prendre le match sérieusement, et c'était pas juste la qualification qui était en jeu, mais d'aller voir un peu plus loin, parce que cette première place, il faut l'expliquer, nous facilite un peu le tableau. C'est-à-dire que ça nous met dans la partie...
Nous faciliterait si on y arrive.
Si on est premier, ouais, voilà. C'est ça. On va dans la moitié de tableau, sans l'Espagne, sans l'Allemagne, sans le Portugal, donc c'est pas trop mal de retrouver ces équipes seulement en finale, vu ce qu'elles nous ont montré depuis le début de la phase de poule.
Et ça, ça se joue ce soir?
Exactement. Il faut gagner contre la Pologne et espérer que les Pays-Bas ne fassent pas une grosse victoire contre l'Autriche dans le même temps. Et à ce moment-là, on sera premier du groupe et on aura un huitième de finale a priori aussi plus abordable.
Donc ça se joue à 18h, 18h, France-Pologne, le troisième match de poule. Il faut le gagner et pour ça, il faut marquer. Le problème, c'est que pour l'instant, les Bleus, bah, ça rentre pas, quoi.
Oui, alors on n'a pas mis un but par nous-mêmes. Hein. Le seul but qu'on a mis sur les deux matchs, c'est un but contre Fokan. Donc, il va falloir régler ce problème-là. Il y a un élément déjà assez évident pour le régler, c'est le retour de Kylian Mbappé, qui va jouer ce soir. C'est une info qu'on donne depuis 24 heures sur RMC. À voir si c'est dès le début, si c'est en cours de match. En tout cas, on va le revoir sur le terrain. On l'avait quitté avec le nez en sang face à l'Autriche après ce fameux contact et ce nez cassé. Donc, il a été ménagé sur le match suivant contre les Pays-Bas. Là, il va jouer ce soir. Ça devrait résoudre une partie des problèmes offensifs, mais pas seulement, parce qu'il y a des joueurs qu'on attend autour de lui. Marcus Thuram, Ousmane Dembélé, Dembélé, Antoine Griezmann aussi, qu'on attend davantage et qui pour l'instant sont pas forcément rendez-vous.
Est-ce que d'autres pourraient avoir leur chance? On a des Kingsley Coman, des Kolo Muani sur le banc, Olivier Giroud, enfin... Là, on a l'impression que tout repose sur Marcus Thuram, mais il y a d'autres options, non, pour Didier Deschamps.
On aimerait bien voir un peu d'autres options, oui. Mais c'est vrai que Didier Deschamps est très conservateur sur ses choix depuis le début. Même entre le premier et le deuxième match, on aurait pu imaginer des changements. Ils ont été faits à la marge. On a plutôt rajouté des joueurs au profil un peu défensif. Donc oui, on aimerait
très conservateur, trop conservateur un peu.
Oui, bah c'est un peu le défaut, le reproche qu'on fait à Didier Deschamps sur les phases de poule, qu'on oublie complètement à la fin quand il va loin dans la compétition.
Voilà. Et là, on se dit, oh, il a tellement bien fait. Parce qu'il
faut quand même dire que certes, on marque pas, mais on n'encaisse pas le but non plus.
Mmh. Ah ça, je pense qu'on est impressionnant défensivement. Et puis on concède très peu d'occasions aux adversaires. Donc ça, pour aller loin dans une compétition, c'est très bien. Mais il faut aussi résoudre le problème offensivement. Et l'homme au masque, donc, parce que ça va être l'enjeu aussi de la soirée ce soir. Mbappé et son masque.
Est-ce que ça l'empêche de bien voir?
Deschamps a dit ça hier, hein, son champ de vision peut être un peu réduit. Il y a aussi sa capacité à aller au duel, à aller au contact. Est-ce qu'il va avoir un peu d'appréhension? Alors il n'y allait pas non plus tout le temps. Hein. C'est pas Olivier Giroud qui est tout le temps au contact de ses adversaires.
C'est pas un joueur de tête
de jeu, voilà. Il va pas forcément au contact de la tête, mais quand même il peut avoir une petite appréhension. Ça change tout de jouer avec ça. Il y a plein de joueurs qui ont témoigné ces derniers jours en disant qu'ils ont enlevé leur masque après au quelques minutes du match parce que c'était insupportable. Voilà, le match de ce soir, c'est pas un match crucial puisqu'on est déjà qualifié, mais ça va permettre aussi de tester ce match.
Et parlez-nous de l'équipe de Pologne.
Alors l'équipe de Pologne, on les a battus en huitième de finale de la dernière Coupe du Monde. Ils nous avaient pas fait grande impression, hein. La Pologne, c'est clairement l'adversaire le plus faible du groupe des trois qu'on a à jouer, qui se repose beaucoup sur Lewandowski, l'avant-centre de Barcelone, qui a été diminué, blessé ces dernières semaines. Donc a priori, on est au-dessus de cette équipe de Pologne. Il y a toujours la vérité d'un match, ça reste du foot, etc. Mais normalement, on est au-dessus. Je pense que on doit faire un meilleur résultat que les Pays-Bas pour être premier. Les Pays-Bas, ils ont un vrai gros match à jouer contre l'Autriche. Nous, a priori, c'est un adversaire plus abordable.
Un adversaire plus abordable et surtout avec un public quand même très français parce qu'il y a 11 000 supporters des Bleus qui seront dans les tribunes ce soir à Dortmund. C'est conséquent, quoi.
Ça, c'est beau, hein. C'est nos envoyés spéciaux en Allemagne nous racontent ça à chaque fois avant les matchs des Bleus. Ils sont donc 11 000. À chaque match, c'était le cas. Moi, j'étais au stade à chaque fois, notamment contre les Pays-Bas où il y avait cette fameuse marée orange qui est toujours impressionnante. Mais on a fait le match, hein. Il y avait la marée orange, il y avait la marée bleue en face. Et là, le stade de Dortmund, c'est un stade aussi qui, historiquement, on a souvent parlé du mur jaune lorsque le PSG a affronté Dortmund en Ligue des Champions. C'est un mur de supporters de Dortmund tout jaune, très raide. Bah là, on espère avoir un mur bleu à la place avec les 11 000 personnes qui prennent place là et qui fassent du bruit ce soir.
Et puis bon, ça y est, on est qualifié, donc on peut se projeter un peu vers la suite. Qui sont les autres favoris là après un peu plus de 10 jours de compétition? L'Allemagne, l'Espagne sont les plus impressionnants.
Bah, l'Espagne, c'est l'équipe la plus impressionnante parce qu'il n'y a eu aucune fausse note sur leurs trois matchs. En jouant en plus l'Italie, la Croatie, donc des grosses nations du foot européen. L'Espagne, clairement au rendez-vous. L'Allemagne, a fait grosse impression sur son premier match, un peu moins bien il y a deux jours en arrachant cette première place contre la Suisse, mais ça reste l'Allemagne chez elle, donc effectivement, faut sortir ces deux équipes, le Portugal aussi, mais comme je vous disais tout à l'heure, ce sont les trois qui sont dans la bonne moitié de tableau, donc les trois favoris du bon côté, nous on peut faire notre petit chemin de l'autre.
Raison, final.
Raison voilà. De plus pour tenter d'être premier. Merci Jean-Louis Tour, rédacteur en chef football à RMC Sport. Dispositif exceptionnel pour suivre France-Pologne, Rotten sans flamme, spécial France-Pologne dès 17h en direct de Dortmund, le coup d'envoi donc du match à 18h et puis le débrief dans l'after à partir de 20h. Et ce soir, ce sera en direct de Fougères. C'est la ville du club formateur du milieu de terrain des Bleus et Eduardo Camavinga. Tout ça, c'est à suivre sur RMC, la radio officielle de l'Euro. Il est 7h16 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Y a-t-il un risque de guerre civile au soir du second tour des législatives ? Emmanuel Macron le dit hier dans une interview et dans 20 minutes, c'est Alain Boer, le spécialiste des questions de sécurité, qui sera l'invité du jour. Il nous dira si le président de la République agite les peurs ou s'il y a, oui, vraiment des craintes fondées de voir des débordements, voire un embrasement. En attendant, on retrouve le 7h20 d'Apolline Matin avec des révélations RMC ce matin, vous allez l'entendre, sur un système de corruption au port de Saint-Tropez. Restez bien avec nous.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Et les coulisses de la campagne des législatives à 5 jours du premier tour. Bonjour Sébastien Krebs.
Bonjour Apolline.
Ce soir se tient le premier débat télé de ces législatives avec un grand absent, Jean-Luc Mélenchon.
Oui, un grand absent, mais qui risque d'être bien présent dans les échanges et d'être la cible des feux croisés de Gabriel Attal et Jordan Bardella, deux candidats au poste de Premier ministre qui estiment tous les deux que leur concurrent, c'est bien lui, Jean-Luc Mélenchon. Qu'il vienne débattre plutôt que d'envoyer son porte-parole, a déjà lancé Gabriel Attal, car c'est l'insoumis Manuel Bompard qui représentera le nouveau Front populaire ce soir, faute d'accord sur un nom pour Matignon. Les quatre chefs de parti se sont partagés les débats après des négociations. LFI, la plus grosse audience sur TF1, le PS ira sur France 2, les écolos et communistes sur les chaînes info. Quatre représentants au risque de se contredire. La base, c'est l'accord signé, insiste leur entourage, même si certains désaccords, sur le nucléaire notamment, n'y sont pas tranchés. Quatre chefs qui font savoir qu'ils se parlent tous les matins pour se coordonner. Côté Rassemblement National, on veut s'afficher en confiance avant ces débats. On déroule notre campagne, fanfaronne même un proche. En fait, c'est surtout le camp présidentiel, distancé dans les sondages, qui joue gros. Il faudra attaquer les deux fronts, juge une députée sortante, qui espère une confrontation sur le fond. Détachée, dit-elle, cette campagne de l'irrationnel et de la colère. Projet contre projet.
Les indiscrets RMC signés ce matin. Sébastien Krebs du service politique d'RMC. Merci Sébastien.
RMC, Apolline Matin. RMC, Apolline Matin. Le 7h20.
Apolline de Malherbe.
Et c'est l'heure du 7h20 d'Apolline Matin avec en studio Amélie Rosic, Manu Le Chypre, Arnaud Demange. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Apolline.
Amélie, aujourd'hui vous nous faites des révélations RMC sur des soupçons de corruption dans le port de Saint-Tropez.
Oui, si je vous dis Saint-Tropez, vous pensez a priori plage privée, boîte de nuit branchée et aussi yacht de milliardaires. C'est précisément de ça dont je vais vous parler. Le port le plus prisé de la Côte d'Azur reçoit des milliers de plaisanciers chaque été. Et pour jeter l'ancre dans cette baie mythique, en plus du prix de la réservation, un ex-agent portuaire dénonce des versements de pots de vin en liquide auprès de la capitainerie. C'est une information RMC suite à sa plainte. Une enquête a été ouverte il y a 2 semaines pour corruption, conduite par la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez. Le lanceur d'alerte a accepté de témoigner en exclusivité pour RMC sous couvert d'anonymat. Écoutez.
Ça négocie et ensuite on confirme la place. En dessous de 1000 euros d'espèces, ils prennent même pas le bateau. Là, il y a un bateau qui dit avoir donné 5000 euros pour 3 jours et ça peut monter à 10-15 000 euros demandés pour rentrer au port. Après, ils cherchent toujours à savoir de quelle origine ils sont, donc si c'est des Arabes, si c'est des Russes, si c'est des Américains, parce que en fonction de la nationalité, ils vont demander plus ou moins.
Selon nos informations, la police enquête sur des agents de la capitainerie et de la mairie et le réseau serait même beaucoup plus vaste.
Ils passent par des intermédiaires, donc ça va être des concierges, ça va être des serveurs des grosses discothèques ou des grosses plages où il y a les milliardaires qui viennent. On sait tous ce qui se passe, tout le monde a peur de perdre sa place, donc tout le monde se tait. Et puis certains en profitent et puis ça continue.
Et selon ce lanceur d'alerte, ça fait des années que ça dure. Nous sommes également en contact avec un ancien élu de la ville qui dénonce les mêmes pratiques. C'est le procureur de la République de Draguignan qui saisit de l'affaire. Il n'a pas souhaité la commenter, mais selon nos informations, des auditions ont déjà été conduites. Qui est impliqué? Où va l'argent? À qui profite-t-il? C'est à toutes ces questions que l'enquête devra évidemment répondre.
Amélie, ces faits, s'ils sont avérés, sont extrêmement graves. Et que répondent les principaux intéressés?
Alors déjà, depuis 2010, le port de Saint-Tropez est géré directement par la municipalité. La capitale
capitainerie, elle, compte une quarantaine de salariés. Nous avons demandé évidemment des explications à la mairie. Dans un long courrier de 6 pages que nous avons reçu, le cabinet de la maire d'Hiver Droite, en poste depuis 4 ans, s'est dit étonné et choqué par ces soupçons totalement infondés. Je cite, la ville explique que le système de réservation des places au port rend le contournement impossible. En gros, les demandes se font sur Internet. La traçabilité serait donc assurée selon la municipalité et seul le directeur du port peut valider une demande de réservation. C'est ce qu'on nous dit. Les tarifs, par ailleurs, seraient réglementés en fonction de la taille du bateau. Exemple, c'est assez compliqué, c'est en fonction du mètre carré d'eau, mais pour un yacht de 50 mètres au vieux port de Saint-Tropez, la place coûte environ 2000 euros par jour en pleine saison. Mais la capacité du port, 734 bateaux, est en fait insuffisante pour faire face aux besoins. Selon notre lanceur d'alerte, c'est la loi de l'offre et de la demande qui favoriserait la corruption.
Et vous suivrez évidemment cette enquête et ces recherches. Merci Amélie. L'actu éco, 7h23 avec Manu. Manu, le RN promet aux Français une énergie moins chère. Comment est-ce qu'il peut s'y prendre ?
Alors, il y a deux priorités. La première, c'est de baisser dès les premières semaines la TVA sur l'électricité, le gaz, le fuel et les carburants, sachant que la France est un des pays, effectivement, qui taxe le plus ses énergies en Europe. Et puis, la deuxième priorité, c'est de renouer avec ce que le Rassemblement national appelle un prix français de l'électricité, aligné sur le coût de production réel de nos centrales nucléaires, alors qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, le prix de l'électricité, il est fixé au niveau européen par un marché en fonction du coût de production de la dernière centrale appelée à produire pour équilibrer l'offre et la demande, le plus souvent une centrale à gaz, comme les prix du gaz avaient flambé. C'est pour ça que les prix d'électricité avaient flambé.
Est-ce que c'est faisable ?
Alors, baisser la TVA, au moins temporairement, nécessite une autorisation de Bruxelles, notamment si on veut faire le grand saut de 20% de TVA à 5,5% de TVA. Il faudra batailler ferme. C'est pas complètement impossible, puisque l'énergie ne fait pas partie des secteurs interdits sur les baisses de TVA qui sont les secteurs de santé publique comme le tabac, l'alcool, les armes. Et puis, la TVA, globalement, ne deviendrait pas inférieure à la moyenne européenne, ce qui serait une règle. La ramener de 20 à 5,5%, ça ferait gagner aux ménages entre 40 et 50 euros par mois, à peu près en moyenne. Mais à tous les ménages, même ceux qui n'en ont pas besoin, avec un coût élevé pour les finances publiques de 12 milliards d'euros. Et puis, par contre, se débrancher du prix européen serait très compliqué. Alors, l'Espagne et le Portugal, on peut le faire, mais parce qu'ils sont géographiquement en bout de chaîne. Et puis, surtout, ce serait pas forcément avantageux. Il faut rappeler que le prix européen, c'est 15% seulement de la facture électrique. Le reste, c'est des taxes, c'est les coûts de transport. Et puis, aujourd'hui, le prix du marché européen, il est inférieur au coût de production du nucléaire.
Oui, en fait,
français.
Ça aurait été intéressant quand
Exactement.
Le prix du gaz était très élevé.
Le vrai danger, c'est de décider ça à contre-temps, alors que le prix européen va redevenir plus bas et que le futur nucléaire français va coûter plus cher et que si on se prive des renouvelables, comme c'est un peu l'intention du RN, ça risque de faire monter les prix de l'électricité chez nous.
Et à 7h25, Arnaud Demange. Arnaud, mon invité dans le face-à-face ce matin, c'est Éric Ciotti, toujours officiellement président des Républicains, en attendant un nouveau bureau politique du parti pour l'exclure.
Oui, alors déjà, on va déjà faire attention à ce qu'il ne s'enferme pas dans nos studios comme il a fait au siège des Républicains. C'est sa petite manie. Hein. Vous le faites rentrer, puis blam.
J'ai décidé que RMC allait fusionner avec Europe 1.
Non, monsieur Ciotti, rendez-nous les clés.
Jamais. D'ailleurs, je vais appeler Europe 1 pour leur annoncer la nouvelle.
Maréchal,
c'est occupé.
Donc, vous l'avez dit, Éric Ciotti est toujours président des LR, malgré son alliance à Jordan Bardella. Mais résultat, on ne sait pas très bien quel candidat il soutient aux législatives. Chez lui, par exemple, dans les Alpes-Maritimes, c'est un bordel. La candidate RN revendiquait le soutien d'Éric Ciotti, mais un article du JDD nous apprend qu'en fait, il soutient la candidate LR.
Ah.
Donc, Éric fait alliance avec le RN, mais il ne soutient pas les candidats RN et il place même des LR en face. Tu parles d'un allié, quoi.
Wow.
Le gars, il a trahi son parti et maintenant il trahit le parti pour lequel il a trahi son parti. D'ailleurs, le papier du JDD a été supprimé depuis. Ah. J'imagine que Ciotti a appelé Bolloré en lui disant « Dis donc, je t'avais appelé pour savoir si je devais trahir mon parti et là, tu me trahis en révélant que je trahis le parti pour lequel j'ai trahi mon parti. Si tu fais ça, je te retrahis en détrahissant les RN. » Les LR, hein. Tu sais, Vincent, on peut trahir 1000 partis 1000 fois, mais on ne peut pas trahir 1000 fois un parti. Si, on peut trahir une fois un parti, mais on ne peut pas trahir 1000. Si, on peut trahir 1000 fois. Bref, pour savoir qui Éric Ciotti va trahir dans les prochains jours, Bah, rendez-vous à 8h30.
À 8h30 sur RMC. Et BFM TV, on vous retrouve d'ici là à 8h20 en direct. À tout à l'heure, Arnaud. Il est 7h27 pour l'heure.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Merci d'avoir choisi RMC, c'est l'heure du journal d'Élise Danjean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Emmanuel Macron, taxé de pompier pyromane. Après avoir dissous l'Assemblée, le président s'inquiète d'une guerre civile en cas de victoire des extrêmes, une sortie qui indigne toute la classe politique. Eux tentent de mettre des mots sur l'horreur qu'a vécu leur fille. Les parents de l'adolescente victime d'un viol à caractère antisémite à Courbevoie s'expriment pour la première fois. Et puis un mur bleu pour remplacer le mur jaune du stade de Dortmund, c'est l'ambition des supporters français ce soir pour aider les Bleus à battre la Pologne et arracher la première place de leur poule.
Emmanuel Macron a décidément bien du mal à se taire.
Malgré les demandes répétées et appuyées de son propre camp, le président multiplie les interventions à quelques jours du premier tour des législatives. Après avoir adressé une lettre aux Français dimanche soir, c'est dans un podcast qu'il s'est exprimé hier et il y a une phrase qui a retenu toute l'attention.
Il y a l'extrême droite et ses associés. Je pense que c'est pas la bonne réponse pour le pays parce qu'elle mène à la guerre civile, parce qu'elle renvoie les gens ou à une religion, à une origine. Et de l'autre côté, vous avez une extrême gauche avec une offre qui est une forme de communautarisme, qui est un peu électorale. Mais ça, c'est aussi la guerre civile derrière. Parce que c'est justifier leur écartement en quelque sorte de la communauté nationale. Dans la conception aujourd'hui de la France insoumise, il y a ça. Et moi, je pense que c'est un danger.
La guerre civile en cas de victoire des extrêmes, voilà le scénario désormais développé par Emmanuel Macron qui ne cesse de renvoyer les deux parties dos à dos. Un président ne devrait pas dire ça selon Jordan Bardella. Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, dénonce lui un mélange des genres qu'il qualifie d'impardonnable. Et pour Jean-Luc Mélenchon, l'ancien patron de la France Insoumise, eh bien Emmanuel Macron ferait bien mieux de se taire.
Alors lui, pour mettre le feu, il est toujours là. Hein. Monsieur Macron, pour le coup, lui, de temps à autre, non pas devrait se taire, je ne me permettrai pas ce qu'on se permet à mon égard, mais disons que tourner sa langue cette fois dans sa bouche est un vieux conseil que je lui me permets de lui transmettre.
Jean-Luc Mélenchon qui assure de nouveau n'être candidat à rien, il l'a redit hier soir sur le plateau de France 2, après avoir laissé entendre le contraire ce week-end. Je peux parfaitement être un ministre parmi d'autres ou ne pas être ministre du tout, dit l'ancien leader insoumis qui fustige au passage les petites guerres internes. C'est en tout cas lui que Gabriel Attal et Jordan Bardella auraient aimé avoir face à eux ce soir pour le premier débat avant les législatives. Mais c'est bien Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, qui complétera le plateau sur TF1 avant un deuxième débat organisé par France 2. Cette fois avec Olivier Faure pour représenter le nouveau Front Populaire. Il est 7h32, ils appellent à une prise de conscience. Les parents de la jeune fille de 12 ans, violée il y a 10 jours à Courbevoie, en région parisienne, sortent du silence. Un viol à caractère antisémite pour lequel deux mineurs ont été placés en détention et un troisième placé sous le statut de témoin assisté. Sur TF1 hier soir, puis dans les colonnes du Parisien ce matin, le couple donne des nouvelles de leur fille, Julie Brault.
Oui, plus d'une semaine après les faits, ses parents décrivent impuissant le quotidien de leur fille aînée. Un quotidien rythmé par, je cite, des réminiscences, des flashbacks et des réveils nocturnes. Ses agresseurs lui ont volé son enfance, s'indigne le père de famille. Déjà quelques mois avant le drame, son épouse se souvient alors que leur fille avait été harcelée à l'école, victime notamment de blagues sur la Shoah après les attaques du 7 octobre. Ses parents lui avaient alors conseillé de rester discrète sur sa religion juive, un conseil qui aurait poussé leur fille à laisser entendre qu'elle était musulmane à l'un de ses futurs violeurs. Quand il l'a appris, il en a déduit qu'elle était forcément pro-Israël et anti-palestinienne, déplore la mère de famille auprès de nos confrères du Parisien. Nous vivons un antisémitisme pesant. Notre fille, elle, l'a vécu dans sa chair, conclut finalement le père de famille.
7h33, ce sont près de 110 salariés de la marque Poulain qui sont menacés de perdre leur emploi. Le chocolatier implanté à Blois depuis 1848 veut vendre son usine historique. Les actionnaires envisagent une fermeture d'ici à la fin de l'année. Un CSE doit avoir lieu aujourd'hui. Reportage sur place avec Mao Bécard-Granier pour RMC.
176 ans que l'usine Poulain fait la fierté des habitants de Blois.
Quand j'étais petit, je visitais l'usine, comme tous les enfants du coin. On allait visiter la chocolaterie.
Et depuis 33 ans, Laurent est même devenu responsable qualité chez le chocolatier.
C'est toute notre enfance, c'est toute notre vie ici.
Mais depuis quelques jours, à l'entrée du site, une banderole où l'on peut lire « usine à vendre ».
Ça fait mal au cœur, on passe devant tous les matins. Donc usine à vendre pour nous, c'est waouh, gros beau cœur. Ouais.
Incompréhensible, puisque l'entreprise tourne, explique Laurent qui a touché 2000 euros d'intéressement l'an passé.
Ça veut dire que l'entreprise, ça lui rapporte, sinon on ne toucherait pas. Parce que nous, on a touché que 2000, mais plus haut, ça touchait beaucoup plus.
À la mi-juin, la direction de l'entreprise a annoncé cette décision, fermer l'usine, en évoquant la baisse des ventes et la hausse des prix de l'énergie. Une justification qui ne tient pas pour le maire Marc Gricourt.
L'année dernière, la production a même été en légère augmentation. Ça fait partie de notre ADN industriel, de notre patrimoine, et nous tenons à sauver ces entreprises, celles-ci comme beaucoup d'autres. L'État doit prendre ses responsabilités pour mettre la pression sur ce groupe.
Les syndicats attendent les précisions des actionnaires aujourd'hui pour décider de leurs futures actions.
7h34, dernier match de poule pour les Bleus à l'Euro. Et si l'équipe de France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, l'enjeu c'est désormais de finir premier de leur groupe. Pour ça, il faudra gagner face à la Pologne ce soir dans le stade de Dortmund. Et les joueurs de Didier Deschamps pourront compter sur leurs supporters. Valentin Jamin qui ambitionne même de remplacer le célèbre mur jaune de la tribune Nord par un mur le plus bleu possible.
Ils seront plus de 11 000 supporters français dans cette tribune, soit deux fois moins que les fans de Dortmund d'habitude. Mais l'idée est quand même de s'en inspirer.
La consigne, c'est de demain tous en bleu pour vraiment que ce mur jaune devienne un mur bleu.
Francis de l'association Les Baroudeurs du Sport.
En plus, les Polonais risquent de jouer en blanc, donc vraiment tous en bleu. On fera de notre mieux pour animer la tribune comme on l'a fait dans les derniers matchs. On sent vraiment de la motivation de la part des gens, de tout âge.
La fédération encourage aussi tout le monde à se parer de bleu. D'autant que cette année, un nombre record de suiveurs se déplace et le match de ce soir symbolise la bonne dynamique du public tricolore, pense Christophe, un habitué.
On trouve que ça s'organise de plus en plus. Il y a la Casa Bleue, il y a une fan. Donc on sent que ça commence vraiment à prendre et on rattrape les oranges par exemple qui sont très forts et les anglais qui sont très présents aussi. On espère que tout le monde va venir en bleu.
Croisé en centre-ville, les fans n'ont aucun doute.
On va remettre le feu à la française, à la bonne franquette, on va être derrière l'équipe et on va mettre le feu, ouais. Il y aura un joli mur bleu, ouais ouais, on a confiance.
On va faire un bordel.
On va retourner le stade, le
mur bleu.
Pour pousser aussi les joueurs à être un peu plus convaincants sur le terrain.
Allez les bleus, allez.
France-Pologne, c'est à 18h ce soir, à suivre en direct et en intégralité sur RMC avec Roten sans flamme en direct de Dortmund. Les Bleus qui joueront en même temps que les Pays-Bas et l'Autriche dans leur groupe. Deux matchs aussi à 21h, Danemark-Serbie et Angleterre-Slovénie. Et puis un mot de l'Olympique de Marseille qui va avoir un nouvel entraîneur la saison prochaine, c'est Roberto De Zerbi. C'est acté, un accord de principe a été trouvé entre le club et l'Italien.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome d'Auteuil.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori, c'est le numéro 15, Henri Brulard. L'outsider, c'est le numéro 17, Goliath. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal des listes d'Angean. Il est
7h36. RMC, 6h39.
Apolline Matin.
Y a-t-il vraiment un risque de violence, de débordement et de guerre civile au soir du 7 juillet si le RN ou LFI l'emportait? C'est l'expression guerre civile utilisée par Emmanuel Macron hier soir. Est-ce que c'est un président pyromane ou lucide qui s'est exprimé et quels sont les véritables risques de violence ou de guerre civile? Les réponses avec le spécialiste des questions de sécurité, Alain Boer, qui rentre dans ce studio. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et ces mots, guerre civile, évoqués par Emmanuel Macron hier, ça vous fait réagir nombreux ce matin sur Direct Studio. Je vois Adis qui nous écrit, Emmanuel Macron a complètement raison. Il faut être ignorant pour ne pas savoir que nous sommes sur le point de basculer. Moi, je me prépare à une forme de guerre civile. Le RN a et va profondément diviser le peuple français. Mais c'est Emmanuel Macron le responsable de cette situation. Voilà ce qu'écrit Adis. Jérémy nous dit, depuis des années, on accuse le RN d'agiter les peurs, de surfer sur les inquiétudes des Français. Mais ces derniers jours, on peut surtout constater que c'est Emmanuel Macron qui agite les menaces. Il en vient à parler de guerre civile parce qu'il panique et n'a plus d'arguments. Et puis j'ai aussi Monique qui nous dit, si le RN gagne, il y aura sûrement des manifs, un peu de casse, mais pas de guerre civile, il ne faut pas exagérer. Et puis Emmanuel Macron est mal placé pour parler, les émeutes en banlieue ou bien les violences des gilets jaunes, c'était sous son autorité, donc je ne vois pas en quoi il serait un rempart contre la violence. Voilà ce qu'écrit Monique, mais vous aussi comme Monique, Jérémy ou Adis, vous continuez à réagir. Ça se passe sur l'appli RMC avec Direct Studio ou bien au 3216.
RMC au 3216,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h40 et vous êtes bien sur RMC.
L'invité du jour.
Bonjour Alain Boer. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes professeur de criminologie au Centre National des Arts et Métiers et vous venez de publier un livre assez étonnant d'ailleurs qui s'appelle Les lois, décrets et arrêtés les plus cons de l'histoire. C'est aux éditions First. On se demande si ce que l'on vit comme période n'est pas la période la plus con de l'histoire, pardon de le dire, en tout cas la plus compliquée.
Oui,
voilà, c'était peut-être le diminutif.
J'ai prévu un volume 2 des politiques les plus cons de l'histoire. Je vous donne rendez-vous l'an prochain.
Voilà, Alain Boer. Le mot est lancé hier par Emmanuel Macron. Guerre civile. Il le dit plusieurs fois lors d'une interview qu'il a donnée à un podcast. Il estime que si le programme, c'est comme ça qu'il le dit, si les programmes du RN ou de LFI arrivent au pouvoir, alors ils mènent à la guerre civile. Est-ce qu'il agite les peurs ou est-ce qu'il y a en effet un véritable risque de guerre civile ?
Alors d'abord, professionnellement, j'ai beaucoup rencontré de pompiers pyromanes. C'est la première fois que je vois un pyromane qui s'étonne après avoir gratté les allumettes, mis de l'essence, oublié de payer la facture d'électricité, qui est le feu. Mmh. Deuxièmement, oui, il y a un risque, bien sûr. Le risque, il est celui de la confrontation, du clash. Et il y a une rageosphère en France qui a commencé et qui s'est accentuée au cours des 30 dernières années par la perte de la confiance qui existe entre le peuple et les politiques depuis le référendum sur la Constitution européenne refusé par une majorité de Français.
2005.
Et la capacité des responsables politiques à contourner cette décision sans faire appel, pour essayer de les convaincre, à la même population. Et donc l'absence de référendum et d'appel direct au peuple a amené une partie de la population à voter avec les pieds, l'abstention, ou à se réfugier dans des extrêmes qui ont progressé de manière systématique d'un million de voix à chaque élection, à une exception près, la présidentielle Sarkozy, où il avait fait réduire le Front National en première tentative, et où il avait perdu 2 millions de voix la deuxième fois par défaut d'avoir répondu à ses aspirations. Et donc ce processus-là est un processus long, lent, et qui s'est accentué avec les gilets jaunes d'un côté.
Donc c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui ne serait que sur cette période-ci. C'est vraiment une sorte de lame de fond, oui, lente, déterminée depuis longtemps.
Intense.
Alain Boer, quand vous dites oui, il y a un risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel genre de risque? Ça veut dire des émeutes? Au fond, d'ailleurs, on se dit, il y a un an, quasiment jour pour jour, le pays était à feu et à sang avec les images terribles des nuits d'émeutes qui se sont succédées. Est-ce que c'est à cela qu'on pense quand on dit guerre civile ?
Alors c'est à l'intensification de ça. Une émeute en France, ça fait 1000 ans qu'on a déjà crié, mais les émeutes récentes, c'est 3 jours et 4 nuits, 2 jours et 3 nuits, on a une intensification. C'est des émeutes de plus en plus TikTok. Elles commencent très vite et elles s'arrêtent immédiatement. On passe de l'émeute au pillage et on passe à autre chose.
Quand on parle de guerre civile, on parle pour le coup d'affrontements armés qui durent.
Oui, c'est la Nouvelle-Calédonie, si vous voulez un exemple. C'est-à-dire, c'est structuré, ça ne se termine pas. Là aussi, le gouvernement a mis le feu, s'étonne que le feu ait pris et ne sait pas comment arrêter le feu puisqu'il ne répond à aucune des problématiques du mode d'emploi de la négociation. C'est-à-dire de comment on éteint un incendie. En général, il y a des procédures. On apprend ça chez les sapeurs-pompiers. Là, nous avons des amateurs, des cons, qui ont décidé.
Je vous sens très en colère, En fait, vous êtes sidéré du risque qu'a pris.
Alors, sidéré, non, parce que depuis quelques années, j'ai compris que tout était possible et surtout n'importe quoi. Donc, la sidération fait pas partie de mon métier, parce qu'autrement, j'aurais arrêté il y a longtemps. Mais, d'un point de vue criminologique, ce que je voyais avec des pulsions criminelles irrésistibles deviennent des pulsions politiques irrésistibles. Et quand Narcisse et Néron rencontrent Caligula, on a un petit sujet qui, un jour, va falloir traiter dans le contrôle démocratique. Je parle pas de la légitimité de l'élection. Le vrai problème que nous avons est le suivant. Le peuple français va s'exprimer au premier tour et au deuxième tour.
Ça, c'est la démocratie.
C'est la démocratie. Il y a des gens qui expliquent qu'ils ne respecteront pas le résultat, même s'il est parfaitement démocratique, si les élections sont parfaitement libres, si on considère que les citoyens sont informés, si la campagne électorale est régulée, vous avez des temps de parole. Vous
êtes c'est qui ces gens-là? Parce qu'on a entendu, par exemple, Jean-Luc Mélenchon hier dit qu'il respecterait le choix des urnes si le RN sortait vainqueur des élections.
Ah, ben, c'est une excellente nouvelle, d'ailleurs. Je remercie Jean-Luc Mélenchon d'avoir fait cet éclaircissement, puisque une partie de l'électorat, des groupes qui constituent le nouveau Front Populaire, explique qu'ils vont entrer en résistance. Alors, je ne juge évidemment pas des raisons et des conséquences. En tant que citoyen, j'ai moi-même mes préférences, mais en tant que académique, j'applique ce que j'appelle la neutralité axiologique. Il y a un scrutin, il est libre, il est régulier, on respecte le résultat des urnes. Après, on fait confiance au Parlement, au Conseil constitutionnel, aux institutions pour réguler les pulsions majoritaires.
Est-ce que le risque est le même? C'est-à-dire que Emmanuel Macron dit si c'est RN ou LFI, ce sera la guerre civile. Est-ce que le risque est le même si le RN l'emporte ou si LFI l'emporte.
Bah, pour l'instant, je n'avais pas entendu le RN contester le résultat de l'élection, même s'ils perdent. Et j'avais entendu beaucoup de partisans de la gauche ou de la gauche extrême ou radicale, on l'appelle comme on veut, expliquer qu'ils entreront en résistance. Mais de toute façon, les trois groupes qui se présentent aux élections n'ont rien à faire des élections législatives. Ils préparent la présidentielle. Et donc, il ne faut pas gâcher les chances de la présidentielle.
Chacun... Donc, ils auraient intérêt à appeler leurs troupes au calme.
Ou au chaos.
Ou au chaos.
Bah, si le chaos vient de la base et de la société civile, la constatation du chaos amène à une élection présidentielle.
Oui, et les politiques pourraient dire, c'est pas moi, c'est pas la moi. Base.
Et donc, à une élection présidentielle accélérée. Donc, vous avez d'un côté M. Bardella qui allège son programme et qui montre, avec un parcours d'ailleurs tout à fait remarquable du point de vue de l'appétence des électeurs, à quel point il est adaptable, flexible, à quel point il entre dans le costume du gouvernement, mais je ne suis pas sûr qu'il soit totalement ravi à l'idée de gouverner pendant deux ans un pays en faillite. Vous avez M. Mélenchon qui dit « je suis Premier ministre, pas Premier ministre », mais en fait l'intérêt c'est que l'élection présidentielle ait désormais le lieu le plus tôt possible, et la majorité ou l'ex-majorité présidentielle qui essaye de ramasser les morceaux sans ayant encore de candidat à la même présidentielle si elle avait lieu. Les autres n'ayant pas de candidat de Premier ministre. Vous voyez, c'est une situation très paradoxale. Chacun joue l'élection d'après et n'a pas grand-chose à faire de l'élection de
Alain
maintenant.
Alain Bauer, dans son interview, Emmanuel Macron, il parle de guerre civile et il fait même référence à une France qui s'est déchirée entre protestants et catholiques. Il parle de la Saint-Barthélemy, au fond, 1572, des milliers de protestants massacrés dans les rues de Paris par des catholiques. Est-ce que cette référence, ça veut dire l'idée d'une guerre civile, pas seulement guerre civile, mais guerre religieuse, est la bonne référence?
Vous imaginez Marine Le Pen ayant fait la même phrase, proposant une guerre religieuse en France?
Enfin, il ne le propose pas.
Vous imaginez la référence?
Vous proposez cette référence, oui.
Vous imaginez, vous, interviewant dans une demi-heure Marine Le Pen, disant « Madame, vous proposez une guerre religieuse en France ?» Vous imaginez l'effet que ça aurait? Vous imaginez d'où ça vient?
Vous trouvez ça coupable?
Ah, on est au-delà de ça. Je veux dire, le président, malheureusement, hein, c'est dévalorisé, dévalué dans son rôle de président de la République.
Marine Le Pen elle-même a dit qu'elle imaginait qu'il y aurait vraisemblablement des émeutes s'ils arrivent au pouvoir. Tout à fait vraisemblable qu'il y aura
des émeutes. Elles sont annoncées, il suffit de lire les réseaux sociaux, au cas où, manifestations, mouvements, résistance, etc. Toutes choses que je,
comprends
par ailleurs.
Quels sont les outils
en la matière, le refus du scrutin démocratique, c'est qu'on n'accepte pas le scrutin uniquement quand on est content du résultat. Il y a un choix à faire, et donc le choix aujourd'hui, il est le respect, ce qu'a indiqué Jean-Luc Mélenchon, je le remercie, du résultat de l'élection.
Vous avez l'air de dire que c'était pas gagné d'avance, que Jean-Luc Mélenchon dit cette phrase.
Totalement évident.
Oui, on verra effectivement sur la suite, mais ça veut dire aussi, Alain Bauer, que s'il y a émeute, voire violence, voire guerre civile, quels sont les outils en la possession du président de la République et du gouvernement, si gouvernement RN ou LFI.
Alors, d'abord, il y a un calendrier. L'élection a lieu le 7, on constate les résultats le 8. Il y a probablement des mouvements d'humeur dans la nuit du 7 au 8. La question, c'est l'ampleur, l'amplitude du mouvement d'humeur, eu égard à majorité relative, majorité absolue ou victoire de l'autre. Majorité relative ou majorité absolue, quel que soit le camp qui a la majorité relative ou la majorité absolue. Dans le cas où la gauche gagne, il ne se passe pas grand-chose. Dans le cas où le centre gagne, ou la majorité présidentielle par une résurrection, tout est possible en politique, gagne, il ne se passe pas grand-chose. Dans le cas où le RN gagne, il y a des annonces de mouvements divers et multiples. Qui va gérer cela? Le gouvernement sortant. Le gouvernement entrant ne sera investi qu'un peu plus tard. Il va ensuite demander la confiance du gouvernement, composer le gouvernement. Il y aura probablement une négociation avec le président de la République sur les postes dits régaliens, l'intérieur, la défense, peut-être le Quai d'Orsay, éventuellement la justice, afin de trouver des candidats de compromis si on est dans cette atmosphère-là.
Au fond, vous ne dites pas du tout comme Emmanuel Macron qu'il y a un risque de guerre civile, quel que soit l'extrême qui passe. Vous dites en réalité le seul risque d'émeute, de violence, de contestation qui existe, c'est si le RN passe et qu'il serait donc contesté par des militants de gauche.
Bah, des militants venus de toutes sortes, des anti-RN, des antifa, tous ceux qui ne sont pas contents du résultat. Mais qui sera obligé de gérer cette partie-là de l'histoire? Le gouvernement actuel et le président de la République actuelle qui a effectivement...
Qui seront encore officiellement aux manettes.
Donc en tout état de cause, ça ne le concerne que.
Ça ne concerne que Alain Bauer. On aura besoin de vos lumières, donc à nouveau rapidement, semble-t-il. Merci beaucoup d'être venu faire le point avec nous. Vous êtes professeur de criminologie au Centre national des arts et métiers, et je ne résiste pas à redire le titre de votre livre, Les lois, décrets et arrêtés les plus cons de l'histoire.
C'est bientôt le volume 2
aux éditions First. Il est 7h50.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, justement, expliquez-nous, Nicolas Poincaré.
Eh bien, je vous explique ce qui se passe chez nos voisins quand il n'y a pas de majorité au Parlement.
À tout de suite.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles. Julien Doré annonce un nouvel album.
Oui, mais attention, un album de reprise. On n'a pas encore d'extrait, mais une playlist très alléchante. Julien Doré va reprendre certains des plus grands tubes français. Par exemple... Mais oui, c'est super.
Ça va être super, ça.
Il a l'image, il va aussi s'attaquer au Elsa. Mais oui, le chanteur annonce, je cite, un retour vers le futur. Il va reprendre par exemple Mourir sur scène de Dalida, mais aussi La kiffance du rappeur Naps, ou encore... Mais oui, Cuitas les bananas de Philippe Risoli. Il y aura aussi trois duos sur cet album. Julien Doré va chanter avec Francis Cabrel, avec Hélène Segarra, ainsi qu'avec Sharon Stone pour une reprise de Parole Parole. De découvrir tout ça.
Ah oui, ça
un duo Julien Doré, Sharon Stone. On n'a pas encore la date de sortie. Les précommandes seront ouvertes à partir du 17 juillet et l'album s'appellera Imposteur.
RMC, Apolline Matin.
7h54, Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous.
Nicolas, et si la France se retrouvait sans majorité après les législatives? C'est un scénario tout à fait possible si l'on en croit les sondages. Le pays serait alors ingouvernable, ce qui est déjà arrivé plusieurs fois à nos voisins européens.
Oui, une assemblée sans majorité, un pays ingouvernable, c'est effectivement une situation que tous nos voisins ont déjà connue. L'Allemagne, l'Italie, la Belgique et l'Espagne. Et nos voisins s'en sont toujours bien sortis. Soit en formant des coalitions improbables, soit en confiant le gouvernement à des techniciens, soit encore en restant sans gouvernement pendant des mois, voire des années.
Et si aucun parti n'obtient de majorité absolue le 7 juillet, qu'est-ce qui se passerait donc?
Alors sans doute ce qui se passe dans toutes les grandes démocraties parlementaires, c'est-à-dire que le président demande au leader du parti en tête de former le gouvernement. Ça pourrait par exemple être Jordan Bardella, mais faute de majorité absolue, on peut imaginer qu'il pourrait faire l'objet d'une motion de défiance et ne pas pouvoir gouverner. Ce serait alors un scénario à l'espagnol. En 2015, après les législatives, la gauche et la droite s'étaient retrouvées au coude à coude, sans majorité. 6 mois plus tard, les Espagnols avaient revoté et de nouveau, aucune majorité n'était ressortie. Le blocage était total. Les électeurs allaient être appelés aux urnes une troisième fois en un an, mais finalement les socialistes avaient décidé de laisser la droite gouverner. La crise avait tout de même duré 9 mois.
Un autre scénario serait de tenter de former une grande coalition.
Oui, une coalition qui pourrait aller de la droite LR aux macronistes, en passant par les écologistes et les socialistes. Ce serait alors une solution à l'allemande, puisque depuis des années maintenant, l'Allemagne est toujours dirigée par de larges coalitions qui ressemblent la droite, la gauche et le centre. Chez nos voisins, après les élections, les partis se retrouvent autour d'une table pour négocier un programme commun dans les moindres détails et ensuite on gouverne. En 2017, Angela Merkel avait négocié 5 mois avec ses partenaires avant de pouvoir former un gouvernement.
En Belgique, les crises gouvernementales ont aussi souvent duré très longtemps.
Les Belges sont les spécialistes incontestés des majorités introuvables. En 2008, ils sont restés 194 jours sans gouvernement. En 2011, record battu, 589 jours. Et en 2018-2020, record battu encore. Le pays n'a pas eu de gouvernement fédéral pendant presque 2 ans. Et pendant ces 2 ans, figurez-vous, eh bien, le chômage a baissé, la croissance se portait bien. Mais la différence entre la France et la Belgique, c'est que la Belgique est un pays hyper décentralisé.
Les Italiens aussi ont expérimenté une autre solution pour résoudre une crise, un gouvernement dit technique.
Voilà, ça s'est passé à 4 reprises. La dernière fois, c'était en 2021. Le pays était dans une profonde crise économique et politique. Le président italien a alors tenté la solution d'un gouvernement apolitique. Mario Draghi, l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne, a obtenu le soutien des 4 grandes familles politiques et il a pu gouverner 2 ans. Un gouvernement technique, c'est une hypothèse que l'on ne peut pas exclure en France si nous étions durablement dans l'impasse. En 1976, lorsque Jacques Chirac avait démissionné avec fracas de Matignon, Valéry Giscard d'Estaing était allé chercher un prof d'économie inconnu, Raymond Barre,
qui était resté Premier ministre pendant 5 ans. C'était une sorte de gouvernement technique. Cette fois, on peut imaginer un gouvernement avec un préfet à l'intérieur, un magistrat à la justice, un médecin à la santé, un général à la défense. Et comme Premier ministre, pourquoi pas le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Un nom à retenir. Enfin, c'est une pure hypothèse.
C'est
de la
une
politique
pure hypothèse, mais on le retiendra à 7h58 ce jour. Nicolas Poincaré a prédit François Villeroy de Gallo en cas de non-majorité. Je poserai bien sûr la question aussi tout à l'heure à Eric Ciotti, qui est mon invité, à 8h30. À tout de suite pour la météo du journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.